Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Eh bien, nous allons parler à présent du tribalisme en milieu universitaire. Quels sont les méfaits de cette pratique et comment lutter contre cela? On en parle dans cette émission avec le professeur Michel Bissa, expert en gouvernance publique. Professeur, bonjour.
Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue dans cette émission, professeur Michel. Des questions et préoccupations, vous avez des témoignages par rapport à ces thèmes, eh bien, n'hésitez pas d'appeler. Le standard est déjà ouvert, composez le 099-706-9941 pour intervenir dans cette émission. Jean-Claude Siala est à la mise en onde. Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission que présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Eh bien, le tribalisme bat son plein dans certains milieux universitaires en RDC. D'après nos sources, professeurs, administratifs et étudiants se regroupent en fonction des affinités tribales. Bien plus, certains professeurs accordent des faveurs aux étudiants de leur terroir, ressortissants de leur village ou ceux qui parlent la même langue. Alors ces derniers font des grandes distinctions, ils deviennent facilement des assistants, chefs des travaux et autres. Voilà, et c'est beaucoup parlent de la coterie, hein, une coterie qui ne facilite pas la bonne cohésion au sein de nos institutions d'enseignement. Autre constat, il y a même des professeurs qui encouragent ces genres de regroupements, voilà. On doit tout le temps se retrouver, on est du même coin, on se retrouve, voilà, pour défendre nos intérêts, etc. Alors, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence en milieu universitaire et comment combattre efficacement ce phénomène? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Vous avez des témoignages par rapport au tribalisme dans nos universités et instituts supérieurs. Appelez au 099-706-9941. 099-706-9941. Professeur Michel Bissa, vous êtes expert en gouvernance publique. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser le tribalisme en milieu universitaire?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, la première chose qu'il faut noter, c'est que toutes ces questions-là exigeraient peut-être un certain nombre d'enquêtes bien fouillées qui peuvent nous aider d'avoir des chiffres et des données. Nous, aux États généraux de l'issue à Lubumbashi, nous nous sommes, en 2021, consacrés, penchés dans une étude autour du phénomène de clientélisme, du tribalisme, mais aussi des présomptions de points sexuellement transmissibles. Donc, il faut d'abord noter, avant d'entrer dans le vif du détail, que ce n'est vraiment pas la caractéristique principale de notre université congolaise. Et je peux vous assurer que des données du terrain, certes, il y a des cas de tribalisme avéré qui peuvent s'avérer à travers les regroupements des étudiants ou des enseignants ou du personnel autour des zones d'origine. Mais il existe bien d'autres antivaleurs qui peuvent venir au-delà et bien qui peut primer sur la question du tribalisme. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier cela. C'est parce que l'université est un microcosme de la société en général. À l'université, vous retrouvez les mêmes tares, les mêmes biais qu'on retrouve dans la société en général, même si la teneur n'est pas la même. C'est comme ça que lorsque quelqu'un est né dans une famille, il prie dans une église, où on parle plus en termes de du village, en termes d'ethnie ou de tribus, il risque d'amener à l'université également le lot de ce qu'il a vécu au niveau de sa famille, au niveau de la société en général. Mais n'oubliez pas aussi que des phénomènes comme la géopolitique des originaires, le fait qu'on soit en train de responsabiliser les ministres, les gouverneurs, les députés sur base des considérations d'origine ethnique et tribale, risque également de titiller d'autres microcosmes de la société, pas seulement l'université, les hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est devenu aussi un cas. Dans notre appareil judiciaire, il y a également des cas de ce genre de regroupement. Deuxième cause de raison, monsieur le journaliste, il faut savoir que traditionnellement, la tradition universitaire, c'est la tradition des écoles de pensée. Et qui dit école de pensée, dit en étage une forme supérieure du tribalisme idéologique qui fait que les chercheurs peuvent être de la même discipline, mais vont se regrouper en termes des affinités idéologiques de pensée, cette fois-là un tout petit peu objectif, mais c'est le même phénomène qui va évoluer. Malheureusement, lorsque le tribalisme idéologique marie le tribalisme traditionnel, nous débouchons à une pathologie sociale qui fait que vous avez un certain nombre d'enseignants, chercheurs, seniors, des professeurs qui n'ont comme assistants que les membres de leur tribu, de leur groupe d'origine ethnique. Et ça, c'est des éléments à combattre et à bannir. Il y a des mécanismes à l'université qui sont prévus pour que la cotation des enseignements ne subisse pas les éléments subjectifs des enseignants. Oui. Mais en tout cas, encore, il faut le souligner, pour chez nous, par exemple, à l'université de Kinshasa, vous n'avez pas la majorité des enseignants dans ce genre de pratiques. À l'université catholique du Congo, d'ailleurs, c'est impossible. Parce que les mécanismes de recrutement des enseignants, les mécanismes de recrutement des étudiants ne laissent pas de place à la possibilité qu'un enseignant se fasse entourer ou compte subjectivement des enseignants. Donc, construisons aussi un peu une distance entre ce que raconte l'opinion publique et la réalité empirique sur le terrain.
Bien que vous dites qu'il faut une étude là-dessus, mais vous reconnaissez quand même que c'est un phénomène qu'on retrouve dans certains établissements. Mais qu'est-ce qui peut pour certains, ils disent que si un professeur, par exemple, préfère avoir un assistant qui est de son village, c'est parce qu'il se sent plus en sécurité. Il est beaucoup plus sécurisé avec ceux qui sont avec ses proches. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
En fait, c'est un faux fuyant, ce n'est pas un argument objectivement vérifiable. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, la compétence et le cerveau n'ont pas de sexe, n'ont pas d'ethnie et n'ont pas de tribu. Et la loyauté elle-même n'est pas liée au sang ou à la langue parlée. La loyauté peut être aussi liée à bien d'autres éléments, notamment l'éducation, notamment la manière dont les choses sont structurées et la qualité formalisée. Alors, à l'issue, nous avons un problème, c'est qu'il n'y a pas une inspection. Et nos inspecteurs, ce sont nos propres étudiants, ça devrait être le conseil de faculté, de département et le conseil d'administration. Là aussi, il y a des cas qui montrent que la sanction n'est pas opérationnalisée facilement. Le circuit de sanctionner un enseignant d'université est très long. Ça doit partir de son chef de service, de son département, de sa faculté. Et quand je parle de faculté, ce sont des conseils du conseil de d'administration jusqu'au niveau du ministère. Là, c'est un élément qui peut arriver. Évidemment, je l'ai reconnu qu'il y a un pourcentage, mais qui n'est pas le pourcentage majoritaire, mais ce pourcentage existe où vous avez des cellules d'enseignement, y compris des cellules même des médecins à l'université, vous avez dans les cliniques universitaires, où vous avez des médecins, tout comme des cabinets d'avocats. C'est pourquoi je vous ai parlé du microcosme de la société. Nous avons même des églises où vous n'avez que les membres d'une même ethnie. D'ailleurs, même les prédications se font dans les langues du village. Et donc, à l'université, je ne veux pas dédouaner l'université, parce que l'université est censée être le haut lieu d'excellence. C'est là-bas que doit provenir l'exemple. Et on ne peut pas tolérer, on devrait sanctionner de manière sévère et rigoureuse cette minorité qui existe et qui ternit l'image des enseignants, l'image de l'université. Tenez, monsieur le journaliste, lorsque nous étions aux États généraux de l'UCI à Lubumbashi, beaucoup de collègues ont demandé que nous puissions inscrire dans la liste de réformes la question des points sexuellement transmissibles. Et c'était des collègues féminins, femmes. Nous avons organisé une enquête empirique auprès de plus de 1000 étudiantes pour essayer de détecter réellement cette question. Je peux vous surprendre si je vous affirmais que la majorité des étudiants les plus brillants sont des femmes. Et donc, les femmes peuvent réussir par leur cerveau et réussissent mieux par leur cerveau que par leur sexe. Mais il se fait que les gens, il y a une minorité de filles qui se sont laissées emporter par une minorité des enseignants chercheurs éthiquement anormaux. Et comme il y a une crise au niveau de la sanction, cette tâche a contribué à ternir l'image de toute une corporation. Mais la majorité n'est pas là. Ça, c'est un élément important. Alors, comment y mettre un terme? Il faut un véritable programme d'assurance qualité. Et aujourd'hui, depuis 2021, à partir de l'université de Kinshasa, et c'est pourquoi moi je regretterai toute ma vie que le professeur Antoine Chimpi, l'ancien secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN, ait été remplacé. Ce monsieur était en train de booster notre université dans les méandres de l'assurance qualité. Mais après lui, on dit que les hommes passent, les institutions restent. Aujourd'hui, il y a un projet qui est mis en place qu'on appelle KIADOC. Le projet, c'est le référentiel de qualité et les évaluations. Tous les enseignants doivent être évalués. Et qui dit évaluer, dit quoi? Dit d'abord regarder qui sont tes collaborateurs les plus proches. Si tes collaborateurs tous sont de ton village, en tout cas, il n'y a pas de cerveau que dans ton village. Si toi, tu n'as encadré de TFC, de mémoire de licence, que les gens de ton village, y compris au niveau de l'évaluation des examens de TP. On ne peut pas avoir que les gens qui ont des noms qui ressemblent ou qui sont tirés dans les mêmes patrimoines culturels que toi, qui font des distinctions et des grandes distinctions. Là, c'est anormal, c'est absurde.
Bien.
Avec le prof Chimpi, secrétaire général, oui.
D'accord, oui. Professeur Michel, on va accueillir les auditeurs et je reviens à vous tout à l'heure. Nous avons en ligne Patty de Bandounouville et Pascal qui nous appelle de Kinshasa. Patty, vous êtes à Bandounouville, quelle est votre question? Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Daniel Kachama. Bonjour à notre invité et à tous les Okapi Service.
Quelle est votre question?
Écoutez, Monsieur Daniel, écoutez, il faut soigner la maladie. Il faut attaquer la cause qui est allée dans des symptômes. On ne traite pas la maladie par des symptômes. Il y a des gens dans la vie, s'il vous plaît. Il y a des gens dans la vie qui donnent l'ego. Il y a des gens qui sont comme les mentors dans la vie. Il y a des gens qui donnent même les pots par leur mode de faire des choses. Les étudiants sont rien. Les vrais problèmes, ce sont les politiciens. Comment imaginez-vous un chef d'État qui est censé être le père de tout le monde, il arrive dans un coin, il dit, vous êtes le machin à combien, nous.
Hein? Patty, nous ne sommes pas dans le domaine.
Il dit que ça,
oui.
C'est le fief de tel.
Patty,
il parle ça en Chilouba.
Patty,
ça,
nous.
Le fief de tel.
Oui, Patty, nous oui, restons dans le milieu. Nous parlons du milieu universitaire.
Non, le milieu étudiantin, ça, oui. Ce sont les effets secondaires. J'ai bien dit, il y a les gens qui sont les meneurs. Les meneurs sont des politiciens. Hein? Les étudiants ne sont pas les donneurs de leçons. Ce sont les politiciens qui sont venus nous diviser.
Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ces professeurs?
On dit que c'est le fief de Fayoulou. Du côté là-bas, c'est des Jean-Pierre Mbemba. À Katanga, c'est Katumbi.
Non, Patti, restons dans le milieu. Milieu universitaire où il y a certains professeurs d'université. Oui, on a compris que même dans le milieu politique,
il y a des stars qui ont donné les go. Donc il faut attaquer la maladie par le cause et non les symptômes. Donc vous voyez, c'est les symptômes. On ne traite pas les symptômes. De manière n'importe quelle médecin, on ne traite pas les symptômes. Vous voulez traiter les symptômes, ça n'ira pas. Il faut traiter la cause. La cause, moi, je vous dis, ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens qui nous parlent de Macha Koumé, nous, qui nous parlent d'un Soussou à Boala, qui nous parlent des choses comme ça. Ce sont des politiciens.
Bien, merci. Merci, Patti. On a compris. Pascal, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Nkashama.
Quelle est votre question?
Voilà. Premièrement, je tiens à saluer l'intervention de monsieur le professeur, notre invité. Et je salue également tous les auditeurs de la radio Capi. Je venais d'obtenir mon diplôme de licence il n'y a pas longtemps à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. Mais tout au cours de mon cursus universitaire, nous avions été victimes des différents groupes de certains professeurs, c'est-à-dire des différents groupes des étudiants de telles provinces qui se retrouvent et qui voient leurs professeurs, n'est-ce pas, pour qu'ils obtiennent quelques avantages, notamment quant aux cotes, quant à ce qu'il faut, la délibération, tout ça. Mmh. Quant au méfait de ce genre d'activités, de ce genre de pratiques, merci, le professeur qui ne prennent que les étudiants de son coin, lorsqu'ils deviennent des CT, vous sentez l'insuffisance, n'est-ce pas, de la qualité d'enseignement dans les chefs de ces CT-là ou dans les chefs de ces assistants. Des fois, les professeurs donnent cours ou ils laissent les enseignements à un certain CT. Lorsque le CT prend le cours, vous sentez que il n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui puisque au départ, il n'a pas les acquis, il n'a pas vraiment la maîtrise de ce qui... Allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, donc il n'a pas la maîtrise des matières. Et j'aimerais également poser une question à notre invité. Que faire si le tribalisme s'étend à la tête même de la faculté? Et comme solution, ça c'est ma question à l'invité, comme solution à ce fléau au niveau de l'université, moi je trouve que la matière de base qu'il faut attaquer, ce sont des professeurs. Il faut qu'il y ait rigueur au niveau des professeurs pour que ces derniers ne puissent pas avoir des sélections compte tenu de leur origine lorsqu'ils prennent des assistants, lorsqu'ils veulent avoir des CT ou que sais-je encore. Voilà un peu ma préoccupation, monsieur Jodel Kinshasa.
Bien, merci Pascal de Kinshasa. Justin Kalabia de Bounia, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour monsieur Jodi, bonjour aussi à notre invité. Oui monsieur Jodi, en tout cas, nous comprenons que le monde universitaire est pollué, monsieur, aujourd'hui, par le tribalisme. Il suffit que vous appartenez, en tout cas, dans une même région, et bien évidemment, directement, vous formez un groupe. Et maintenant, chose étonnante, monsieur, aujourd'hui, quand j'ai aussi un témoignage, quand je suis étudiant, nous avons traversé dans pas mal de choses, pareil, monsieur, aujourd'hui. Vous allez voir un professeur. Vous dites, toi, bizarre, en tout cas, permettez-moi le terme. Et quand il comprend que vous n'êtes pas, en tout cas, de sa région, et monsieur, aujourd'hui, il vous impute même jusqu'à la nouvelle évaluation. Alors que vous avez tous ces actes, vous avez tout réussi, mais le fait que vous n'appartiez pas seulement dans sa province, mais moi, je me demande, où va ce pays ici, la République démocratique du Congo, de Lumumba, vraiment? Alors, la question est celle de savoir, monsieur, aujourd'hui, pourquoi, bien évidemment, dans nos universités, à travers les pays, on ne mène pas des campagnes, des sensibilisations pour lutter contre ce tribalisme. Monsieur, aujourd'hui, et bon début de la semaine.
Bien. Merci à Justin Calabia. Professeur Michel Bissa, vous avez la parole.
Merci beaucoup. D'abord, pour répondre à ces questions-là, je l'ai dit tout à l'heure, le tribalisme est une réalité, mais ce n'est pas la caractéristique de notre université. D'ailleurs, je peux vous assurer que la politisation est même un cancer beaucoup bien plus nuisible que ce qu'ils appellent tribalisme. Chaque politicien dans ce pays, en tout cas la majorité, ont créé des établissements dans leur village. Nous avons près de 900 institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui. Si vous regardez bien, les promoteurs sont souvent anciens ministres, anciens députés et tout. Et ça, ça a fait que les universités elles-mêmes du village sont des universités tribalisées ou des instituts supérieurs tribalisés parce que on les crée pour des raisons électoralistes dans le village. Et c'est pour cette raison-là qu'il fallait faire l'assainissement en fermant des universités du village, des universités tribalisées. Malheureusement, vous le savez, le ministre Moïse avait frappé quelques universités ou facultés de médecine non viables. Faites l'enquête sur le terrain, vous vous rendrez compte que la majorité aujourd'hui fonctionne. Alors, quant à M. Patsy de Bandundouville, tout à fait d'accord avec lui que le pouvoir politique possède aussi sa part de responsabilité. Mais attention, dans ce monde, après Dieu, c'est les universités. Le pouvoir scientifique est un pouvoir prééminent. Le savoir précède le pouvoir. Donc, le savoir scientifique est plus puissant que le pouvoir politique. Et donc, nous devons assumer la responsabilité du milieu scientifique pour que ce milieu soit une lumière qui éclaire le milieu politique. Si on peut comprendre qu'il y a des antivaleurs dans le milieu politique, le modèle de la société, on devrait venir le trouver dans les milieux universitaires, mais aussi dans les milieux familiales. Le pouvoir de la famille est aussi plus puissant que le pouvoir politique. Souvent, cette hiérarchie de pouvoir n'est pas bien établie et donc, on ne peut pas tolérer le tribalisme dans les milieux universitaires au motif que le milieu politique lui-même serait tribalisé. Alors, Pascal, l'ancien de l'université de Kinshasa, c'est vraiment triste que nous puissions avoir une minorité, quelques cas de collègues qui s'illustrent par des anti-valeurs, notamment le phénomène de tribalisme. Mais vous l'aviez dit vous-même, nul de tous ces gens-là ne deviendra grand, ne deviennent grand scientifiquement que ceux qui s'ouvrent pas seulement d'ailleurs au niveau national, au niveau international. Mais notre université, je parle de l'université congolaise, elle-même est malade parce que plus de 98% des enseignants-chercheurs sont congolais. Regardez, lorsqu'on est en train, c'est aussi une forme de tribalisme national. Dans l'université Tchekantadjop, l'université Makerere ont plus de 100 nationalités qui interviennent chez eux. Mais chez nous, dans nos universités, les gens ne veulent pas ouvrir l'université à d'autres nationalités parce que la science n'a ni sexe, ni tribu, ni nationalité. Donc, à tous les étages, il y a des problèmes qu'il faut nettoyer et nous continuons à penser que le prochain ministre de l'enseignement supérieur universitaire ou si celui qui est en place était reconduit, il devra notamment mettre dans son chaînal des batailles, la question du changement de mentalité. Nous devons changer nos mentalités et dans ce changement de mentalité, la politisation, la tribalisation et toute forme d'antivaleur qui précède même le tribalisme, le clientélisme doivent être combattus sans aménagement, sans tolérance.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Oh, bonjour, monsieur Jédi, et bonjour, votre père, et bonjour à tous les amis du Gagila.
Quelle est votre question, Roger Marcel?
Monsieur Jédi, vous savez, moi, j'ai eu quand même le temps de étudier vraiment à l'université de Kinshasa, de rester même homme. Mais je n'ai jamais eu à constater ce mouvement. J'avais vu un peu ce mouvement-là dès le début, quand j'étais en GF1. Hein. Il y a quand même des groupes des étudiants qui sont montés, les groupes d'actualité du Bandundu, d'actualité de Maniema, mutualité. Et si vous constatez ce genre d'étudiants-là, ce sont des étudiants faibles. qui sont venus là, qui ne sont pas forts dans tel type, quand ils vont former avec ces groupes-là, c'est pour un peu que les professeurs, bien les CP, les assistants puissent un peu aider ces étudiants-là. Mais quand vous venez à l'université, vous vous êtes fort ici, vous vous donnez dans presque dans tous les cours, vous n'aurez pas encore le temps d'aller chercher que vous puissiez adhérer dans tel groupe et dans tel groupe. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je suis maintenant en FD. Je n'ai jamais concentré sur ce mouvement-là. Il y a même des professeurs qui ne s'intéressent pas pour peut-être qu'il y ait de tels crédits. Si tu travailles, c'est tes fautes. Directement, tu passes. Il n'y aura pas un professeur qui viendra pour toucher. Toi, on t'appelle, tu es de quel tribu. Ça, c'est vraiment rare. Au moins, si le professeur tombe un peu dans un cas, il peut te demander. Mais on voit quand même un professeur qui se doit connaître. Toi, tu es de Bambini, toi, tu es de Maniema. Les gens qui viennent avec ces mouvements-là, comme le professeur l'a dit, ce sont les députés et puis nos dirigeants. Lorsqu'il arrive un moment de campagne, comme j'avais dit l'année où j'étais en G3 avec l'ancien ministre Steve Mikai, il a eu même à organiser ça pendant sa campagne. C'est quand même, nous, on a même à participer dans des associations. Si vous vous retrouvez, vous êtes de quel camp, pour donner quand même aux députés des voix. Mais ce sont vraiment des mouvements qui se passent vraiment. Parce qu'à l'inutile, si vous attendez quand même la suite avec ces mouvements-là, vous n'avez pas que vous.
Alors, Roger Marcel, vous êtes toujours à l'inutile. Est-ce que vous confirmez que ces mutualités existent toujours?
Oui, les mutualités, là, ça existe. Parce que moi, j'ai été invité par un ingénieur de participer dans une mutualité de Bambini. Mais quand j'étais là, les choses qui se passaient là, c'était vraiment drôle. Il y a des critiques, mais l'autre fois, l'ami a insisté encore de m'inviter pour la deuxième fois. Je n'avais pas que c'était intéressant, que ce n'était pas intéressant. J'ai dit non, tu ne pourras encore m'inviter un peu dans ce genre de choses. Je pense que c'est ce que je viens de dire, ce sont les étudiants-là qui se voient, qui ne sont pas forts. Il faut créer ce mouvement-là seulement pour qu'ils puissent avoir les gens dans tel cours pour les étudiants.
D'accord, on a compris. Vous avez dit que ce sont généralement les étudiants faibles qui se regroupent en mutualité du Bandundu, du Maniema, des ceci, cela, pour voir comment obtenir les faveurs des professeurs ressortissants de leur région. Merci beaucoup. On va accueillir Maître Patrick Odia de Bukavu. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, Jody. Je m'appelle Patrick Odia depuis Lubumbashi, non Bukavu.
Depuis Lubumbashi, merci.
Oui, je n'ai pas de questions, mais juste en termes de commentaires à faire par rapport au milieu universitaire, le tribalisme dans le milieu universitaire également. Moi, je suis à Lubumbashi. Je ne voudrais pas citer les universités ici, mais il y a des pratiques qui fâchent même la corrélation également. Dès lors que même dans la correction également des épreuves, que ce soit les interrogations, les examens, on donne à des enfants tels que parce qu'il aurait le même nom avec moi, parce que tel assistant serait également de même approche.
De mon village.
De mon village également. Et vous allez voir que c'est tout à fait difficile. Comment expliquer qu'un monsieur qui a les mêmes réponses après B, avec un autre également, mais celui-ci a 2 sur 20, l'autre a 18 sur 20. Comment expliquer que dans une université, il n'y a que les assistants, les étudiants de la même région avec le recteur, de la même région avec les doyens, de la même région avec le professeur titulaire du cours, qui ne sont recrutés que des assistants et le chef des travaux? Comment expliquer que les assistants qui peuvent avoir la promotion de devenir chef des travaux, c'est pas moi, même pour être admis au master, j'allais même la thèse, vous pouvez avoir déjà mis des recherches en place concernant la thèse également, mais pour que vous soyez admis, il faudrait que votre nom puisse avoir un élément régional également avec le recteur ou les doyens de la faculté. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle la milieu universitaire, la parapluie, donc vous n'allez pas progresser, peu importe votre intelligence. Et c'est là gâte les efforts, même les systèmes éducatifs aujourd'hui, parce que je sais que même peu importe ce que je vais lire, peu importe ce que je pourrais faire, j'aurai que 7 sur 20, j'aurai que 9 sur 20, et les autres vont devoir, vont devoir également. Qu'est-ce faire devant cet antivalère également, qui, au jour d'aujourd'hui, a comme conséquence, même sur le milieu politique aujourd'hui, les hommes que nous avons aujourd'hui, ce sont les hommes qui ne sont pas compétents de par leur formation. D'où, je pense que la méritocratie, en changeant par exemple le recteur de l'université, dit n'importe quelle université, qui doit être rigoureux, méticuleux dans les détails, pourrait permettre également à ce que le tribalisme puisse un peu baisser. Mais surtout au niveau des sanctions. J'ai expérimenté, par exemple, dans une certaine université que je ne voudrais pas nommer les noms, nous avons proposé qu'il y ait les systèmes de l'anonymat. Lorsque nous avons les systèmes anonymat dans une université, que ce soit des TD, que ce soit des interrogations ou des examens également, on ne saurait pas qui a répondu quoi. Il vient de quelle province ou de quelle région. On ne saura pas. Et là, c'est la méritocratie. Mais si alors, dans une université, vous présentez des interrogations, et c'est le professeur avec ses assistants qui arrive à la maison pour corriger, et nous apprenons qu'on corrige dans des maisons telles que ceci, des boissons alcooliques et tout, voyez-vous que ça ne va pas permettre. L'une des solutions meilleures, c'est l'anonymat qui permettra à ce que les tribalismes puissent diminuer, je ne dis pas complètement quitter dans les milieux universitaires, mais diminuer. Il est bon de parler tribu, mais pas les tribalismes. Il est bien de parler de la région, mais pas les régionalismes. Je suis de telles provinces, je suis de tels milliers, mais cela ne peut pas me favoriser à ce que je puisse favoriser les gens qui ne sont de ma tribu, qui sont de ma région, même si ces gens ne sont pas compétents. C'est très dommage. D'où la solution, à mon humble avis, avec l'expérience universitaire que nous avons eue, c'est les systèmes anonymat. Et les systèmes anonymat fonctionnent très bien pour lutter contre les milliers de tribalismes, comment dire, des tribalismes au sein de l'université, mais aussi les sanctions doivent être rigoureuses. Les sanctions doivent être rigoureuses. Même, je proposerais même que même dans les recrutements des assistants aujourd'hui, qu'il y ait une certaine, lumière dans les recrutements des assistants aujourd'hui. Si vous arrivez dans une université, les assistants de tel professeur, ce sont les mêmes professeurs, on vous dira que tel est l'oncle au professeur tel, tel est le petit frère de tel, tel est le cousin de tel. Donc, c'est ce cercle déjà miné. Alors, pour permettre peut-être en termes de legis férale, il faudrait passer au système des sanctions et au système également de l'anonymat. Qui nous permettrait d'en swapper également.
Mais, merci Maître Patrick.
Je vais citer pour poser la question en disant à l'invité, par exemple,
oui.
Devant, est-ce que tu le mauvais... comment je peux dire ça? Est-il mauvais? Quelles peuvent être les conséquences à long terme ou quelles peuvent être les mesures à court terme pour lutter contre le tribalisme dans les milieux universitaires?
Merci Maître Patrick Odia de Lubumbashi. Eminent Mwanda, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous ceux qui nous accompagnent,
bien.
À tous les auditeurs de la radio 4.
Bien, quelle est votre question?
Ma question est de savoir quelle est la pratique utilisée pour la désignation des animateurs des instituts supérieurs universitaires en RDC. Parce que, monsieur, aujourd'hui, je vous dis que cette pratique-là de tribalisme dans les milieux universitaires commence dès que les étudiants de Jean 1, à l'époque, soit Bac 1, sont recrutés. Vous allez commencer à voir, il y a même des petits groupes qui commencent à se fonder. Non, nous sommes de telles tribus, nous sommes de tels clans, nous sommes également... Ça, c'est les synergies de tel et de tel. Alors, c'est là que d'abord le problème commence. Parce qu'il y a même les compétents qui, actuellement, sont toujours à assistants parce qu'ils ne sont pas d'une même colline ou soit d'une même tribu, du recteur, ou soit ils ne partagent pas la même obédience. C'est pour cela que nous sommes en train de nous lamenter actuellement de cette propre ruine, de cet antivalère, mais. Nous ne voulons pas au moins échanger ça. Nous pouvons être peut-être dans une organisation, une institution, mais notre tendance est toujours orientée pour le tribalisme. Mais ce que je peux maintenant proposer, comme ça, comment c'est même moi, je trouve que ça serait une bombe d'arrêtablement, parce que ça va clocher. Et nous sommes ici à Bukavu, je vous dis, monsieur Jody. C'était pratiqué près d'assaut, surtout dans les milieux universitaires. Il y a des universités propres pour telle tribu. Si vous partez, par exemple, à telle institution, c'est ceux qui doivent rester là, doivent peut-être seulement, excusez pour même citer la tribu, des barres, des sortes de bâches. Alors, c'est là que peut-être quelqu'un avait une ambition de poursuivre ses études universitaires dans une institution, mais il voulait évoluer, il n'y a pas cette filière là. Et c'est ce qui continue à désorienter certains étudiants. C'est pourquoi je voulais que le gouvernement change d'abord la politique de désignation des animateurs des universités, en restructurant encore les comités déjà mis en place, et promouvoir tant soit peu la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la jeunesse qui va payer ça très cher dans les jours à venir. Et sinon, nous allons assister dans un pays, dans un système éducatif sans nom. Parce que quand vous voyez, j'ai voulu faire mes droits, mais je me trouve que dans telle université, il n'y a pas les droits là que peut-être les sciences agronomiques. C'est là où il y a peut-être, c'est là que mes collègues, mes familiers se sont assortis sans problème.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Emina Mwanda de Bukavu. Professeur Michel Vissa, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Il y a des questions intéressantes auxquelles je peux répondre. D'abord que je dise que vous voyez que la majorité de ceux qui interviennent ont été formés dans l'université congolaise. Et quand vous allez en dehors du pays, vous vous rendez compte que les meilleurs médecins qui sont en Afrique du Sud, au Sénégal et peu partout sont congolais. Ce qui montre qu'il y a quand même une partie de bonne qualité et il y a aussi une grande partie de la méchanceté. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec Marcel qui a parlé de la politisation à citant Steve Mikai. Mais lui, ce n'est qu'un cas d'école. Ils sont très nombreux des ministres qui recrutaient sur base de considérations politiques pour gérer un milieu apolitique, ont voulu chercher des militants à l'université. Et ça a contribué à politiser, à octroyer des thèses politiquement obtenues, ainsi de suite. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais messieurs les journalistes, tenez, ce qu'on appelle les associations tribales, il arrive des fois que ça commence comme les associations des anciens élèves de telle école. Je prends l'exemple des gens de Bukavu qui sont à Klinikine. Il y a une association des anciens élèves du collège Alfagiri de Bukavu ou du collège Sadisana de Kikwits. Lorsqu'ils sont là-bas, au début, ils ne manifestent pas les tendances tribalo-ethniques. Mais il se fait que tous sont étudiés à Kikwits. Ils ont beaucoup de chances d'être originaires de la province du Kwilu. Et donc, petit à petit, on se retrouve en difficulté de séparer les alumni d'une école, ce qui est une pratique à encourager, de fédérer les anciens de telle ou telle école, et les dimensions tribalo-ethniques qu'il faut combattre et qu'il faut vraiment accompagner. Quelqu'un a proposé ici le système d'anonymat. Ce système est d'application à l'UPGI et aussi à la faculté de sciences économiques de l'UNIKIN. Mais là encore, quand vous arrivez au bout du tunnel de l'anonymat, vous trouvez qu'il y a toujours un homme ou un petit groupe, souvent à la solde des gestionnaires de la faculté qui contrôle le système. Alors, M. Odja de Lubumbashi a posé des questions pertinentes sur les mécanismes à court, à moyen et à long terme. Là, moi, je pense que pour lutter contre toutes ces antivalets, il faut d'abord avoir un système efficace d'évaluation des enseignants et des enseignements du programme. Ça fait 10 ans que je suis professeur à l'université, j'enseigne dans les universités du pays. Personne n'a jamais évalué le contenu de ce que j'enseigne pour me dire est-ce que ce que j'enseigne est scientifique ou non. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est que, en principe, il appartient aux universités de mettre en place un système d'impersonnalisation des mécanismes de recrutement. Mais là encore, il y a deux tendances. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait procéder aux élections des doyens, des recteurs. L'UNIKIN, c'est presque une des rares universités au pays où on vote les doyens. Mais je peux vous assurer que même au niveau du vote des doyens, des chefs de département, ça n'a pas accompagné l'efficacité. Et là aussi, le processus de vote se déroule comme le vote au niveau national, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a comme antivaleur, clientélisme, corruption et même sectarisme et tribalisme. C'est un problème. Mais maintenant, moi, j'ai un avis personnel qui n'est pas scientifique.
Oui.
Je pense que les universités de province, sauf les grandes universités d'ancrage, comme l'UNILU, comme l'Université de Kisangani, comme l'Université de Kinshasa, chez les privés Nouveaux Horizons, ICC, UPC, Ça peut être considéré comme des universités d'envergure nationale. Mais tous ces politiciens qui ont créé des universités dans leur territoire, dans leur village, pour des considérations d'ordre tribalo-ethnique, ces universités devraient être soit fermées, soit considérées que les diplômes qu'on donne à ce niveau-là sont des diplômes qui n'ont compétence qu'au niveau des ETD. Parce qu'il n'y a ni professeur, ni laboratoire, ni rien dans ces universités. Si on ne sait pas les fermer, alors les gens qui sont formés là-bas, qui ont la culture, la mentalité vraiment du village, ne devraient pas être amenés au niveau national pour vampiriser ou répandre les germes de la tribalisation au niveau de l'État. Mais c'est une idée qu'il faut évoluer, qu'il faut mûrir pour pouvoir évoluer. Alors, quel est le mécanisme le plus fort pour lutter? C'est la sanction, le contrôle, l'évaluation et la sanction. C'est pourquoi je vous parlais du projet qui ad hoc. On doit revaloriser la procédure qualité au niveau de l'université. L'université de Kinshasa était déjà en train d'y avancer avec Antoine Tchimpi. L'indexation des revues, le contrôle des jurys. On ne peut pas avoir un jury de mémoire ou de cours où tout le monde est de même obédience tribalo-ethnique. Mais aussi, on doit avoir des mécanismes de contrôle interne. Là, même le niveau étatique, nous n'avons pas encore de référentiel d'évaluation de la qualité. Ça n'existe pas, mais maintenant, il y a un projet conduit par l'INIKIN et l'INILU. Je suis membre de ce projet, oui. Sous le leadership du cabinet du ministre. Nous sommes en train de vouloir créer le référentiel de qualité, d'évaluation. Comme ça, on sait évaluer chaque enseignant au niveau où il est, chaque laboratoire, chaque unité de recherche. Les évaluations doivent être internes et externes, faire intervenir des cabinets d'audit international sur l'assurance qualité. Comme ça, avec ces évaluations, on peut valider, certifier les diplômes d'une université ou rejeter carrément et dire que c'est du chiffon. Donc voilà un tout petit peu ce que je pouvais dire, monsieur le journaliste.
Bien, nous parlons du tribalisme en milieu universitaire avec le professeur Michel Bissa, expert en gouvernance publique. On va accueillir un autre auditeur. Vous avez dit là, il faut sanctionner, sanctionner quand il y a des tels cas qui sont enregistrés dans nos universités et instituts supérieurs. On va accueillir Exaucé Kassindi qui nous appelle depuis Goma. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Je suis à Goma.
Quelle est votre question?
En effet, comme vous l'avez bien dit dans vos mots, il s'observe un mouvement de tribalisme dans plusieurs universités du pays ces derniers temps. Et selon mon constat, cela est dû suite à des étudiants qui ne se sentent pas en liberté, alors qu'ils devraient vivre comme des frères entre eux. Ils pensent qu'en vivant comme ça, qu'ils auront au moins une considération dans des universités, alors que c'est faux. Par exemple, ici à Bukavu, vous verrez dans une université un groupement ou une association des Babembe, par exemple, qui est en rival avec une association des Bahavu. Suite à quoi? Au tribalisme. Et cela arrive même chez certains professeurs, par exemple. Le professeur Mubembe, en corrigeant la copie, il voit un nom de Wilonja. Directement, l'étudiant Wilonja aura le maximum des points, même s'il n'a pas réussi. Et il aura des points, mais s'il voit seulement un autre étudiant répondant au nom de Mouchagalous, directement, ipso facto, l'étudiant Mouchagalous aura
le point. Va échouer.
Il aurait dû avoir. Maintenant, pourquoi être tribal jusqu'à ce point-là maintenant? En favorisant sa tribu et laisser une autre tribu périr. Et même le professeur aussi, il a certains professeurs qui travaillent ensemble. Mais suite au tribalisme, ils ne se parlent pas alors que dans leur déontologie, cela n'est pas permis.
Et pourquoi ils ne se parlent pas?
Pour les élections des porte-parole aussi. N'en parlons même pas. Si par exemple le porte-parole est d'une tribu, par exemple l'aigle, toutes les voix seront entendues si et seulement si l'étudiant est l'aigle. Mais maintenant, pourquoi cela? essayons un peu de vivre comme frères et des mêmes races entre votre père et mère, et tous ces problèmes prendront fin au moins.
Bien, merci Exaucé Kassindi depuis Goma. Leslie Kipoulou, vous êtes à Kinshasa, bonjour, quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour, je crois que c'était hier que j'avais écrit sur les réseaux sociaux pour répondre à la préoccupation que vous nous avez demandée. Bon, on déployait ce qui se passe actuellement dans nos universités. D'abord, là où j'étudie, j'ai tel nom, puisque je ne peux pas le dire ici. Dans nos universités, il est observé des pratiques de transmission de points. Et il y en a trois, qu'on se le dise. Il y a d'abord la pratique, la transmission des points.
Le point sexuellement transmissible.
Oui, le point sexuellement transmissible, là, c'est de un. De deux, il y a le point tribalement.
Tribalement transmissible. Point tribalement transmissible.
Et enfin, il y a des points financièrement transmissibles. Et le mode par excellent de transmission de points, là, si l'étudiant travaille, il aura ses points dans de bonnes conditions. Et je crois que la Constitution congolaise, dans son article 13, réprimande tout acte allant dans ce sens. Je ne sais pas si je peux lire la Constitution congolaise.
Non, vous voulez dire que dans l'université où vous avez évolué, cette pratique continue, le tribalisme, ça continue?
Je suis étudiant et cette pratique continue. Cela n'a pas fini. Et voilà. Je disais la Constitution congolaise dans son article 13. Et lorsque vous lisez également le règlement des étudiants, vous verrez qu'il est dit que dans l'État, le pouvoir public, doit prendre des dispositions pour éliminer toutes ces pratiques, éliminer la discrimination dans les institutions, dans les institutions universitaires et plein d'autres institutions publiques, allais-je dire.
Merci Leslie Kipoulou, merci beaucoup. Voilà, Leslie confirme cette pratique dans son université où il a même catégorisé les différentes manières de transmettre les points. Voilà, les points, on a les points sexuellement transmissibles, points financièrement transmissibles et les points tribalement transmissible. Professeur Michel Bissa, quelle est votre réaction?
Je suis avec intérêt, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut relativiser lorsqu'on n'a pas fait l'enquête réellement sur le terrain. Nous sommes allés jusqu'à, dans notre hypothèse, à classer, au-delà de ce qu'il a cité, c'est que les gens parlaient de points politiquement transmissibles, mais aussi de recommandations familiales. Effectivement, il y a beaucoup de gens dans des familles, les oncles, les cousins, les pasteurs, qui peuvent recommander, envoyer un nom à tel ou tel autre enseignant. Mais encore que là, je peux vous dire que si le plan des enquêtes réellement sur le terrain, nous n'avons même pas eu 5%, je dis pas 5% des étudiantes qui ont réussi parce qu'ils ont fait des rapports sexuels. Il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, qui nous a conduit à faire des enquêtes, et vous pouvez vous imaginer qu'en 5 ans, les 5 dernières années, il n'y a qu'un seul cas d'un professeur sanctionné pour harcèlement sexuel avéré jusqu'au niveau de la justice, et 3 cas en 5 ans qui sont en processus de traitement pour des questions d'harcèlement sexuel ou de corruption financière. Mais effectivement, alors ça existe comme il y a ces quelques cas et il faut les bannir. Mais je rappelle, ce n'est pas la caractéristique de l'université congolaise. Beaucoup de gens ont tendance à penser que lorsqu'une femme a réussi brillamment, donc elle a réussi par son sexe. Et ça, moi, j'ai toujours dit que c'est faux. Les enquêtes sérieuses les montrent. Et évitons de faire des affirmations lorsqu'on n'a pas de preuves tangibles. Parce que j'ai vu des dames, professeurs, elles étaient au nombre de 3, qui dénonçait les points sexuellement transmissibles. J'ai eu des entretiens privés avec elles-mêmes parce qu'elles ont étudié au Congo depuis G1 jusqu'au doctorat pour les demander si elles-mêmes elles ont eu une expérience avec les points sexuellement transmissibles. Elles ont dit que non, elles-mêmes elles n'avaient pas eu l'expérience parce qu'elles étaient brillantes, mais qu'il y a des filles qui venaient de raconter ça.
Bien, c'est professeur.
Pour vous dire que c'est le propre oui. des étudiants faibles.
Oui, d'accord, professeur. Donc, il faut, vous avez dit qu'il faut des études, mener encore des études sur ces phénomènes pour avoir des données beaucoup plus fiables. Mais pour terminer, vous avez proposé qu'il y ait la sanction et puis promouvoir la méritocratie et surtout l'anonymat dans la correction des examens, tout ça, interrogations et autres. C'est ça qui peut aider à diminuer à ce phénomène, à ce fléau de tribalisme dans nos universités. Vous confirmez cela?
L'anonymat, non. Je ne suis pas partisan de ce qu'on appelle l'anonymat parce qu'un enseignant, si les conditions sont bonnes, doit personnaliser son enseignement, doit être capable de connaître comment se comporte l'étudiant qui peut être fort dans la pratique, mais pas très fort dans la théorie, ainsi de suite. Donc, pour un enseignant, lorsqu'il a une copie devant lui, il n'y a pas que les écrits qui comptent, il y a aussi toute cette gymnastique entre enseignant, enseignement, programme, compétences réelles. Mais ce que moi je pense, il y a des axes sur la formation, il y a des axes sur les évaluations objectives, et il y a l'axe sur les sanctions sévères. Quelqu'un qui se retrouve dans les antivaleurs, il faut les sanctionner. Mais il y a aussi un axe sur la structuration. Il y a la politisation de l'université qui fait que des recteurs, les membres des comités de gestion sont déjà nommés sur base, si pas de l'appartenance politique, alors de leur affiliation géographique ou identitaire. Ça, c'est un fléau de notre société, de notre génération, où même les ministres sont nommés au gouvernement sur base de l'appartenance tribale ethnique, avant même l'appartenance politique et idéologique, avant même les compétences. C'est toute la société qu'il faut nettoyer pour pouvoir nettoyer les antivaleurs et rendre l'enseignement, la formation et la méritocratie objective. Ça, c'est possible, et c'est possible à travers la formation, le référentiel d'évaluation objective, l'assurance qualité à tous les processus, depuis le recrutement, le travail jusqu'à l'avancement en grade. Il nous faut évaluer systématiquement, il faut sanctionner sévèrement, il faut former les gens pour pouvoir espérer le développement de la société.
Bien, professeur Michel Bissard, je rappelle que vous êtes expert en gouvernance publique. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et merci à la radio Okapi, et merci aussi à tous les intervenants à cette émission.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Dati Mafuku a assuré la coordination et la réalisation. Jean-Claude Siala, Moana Makengo était à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.